France Info.
Bonsoir, Emmanuel Macron en chef de campagne des municipales. Vincent Lambert, l'épilogue, le bac, le Grenelle des violences conjugales, le pape et les migrants, c'est dans les informés avec vous. Bonsoir Monder Abdenader. Bonsoir, vous êtes cofondateur avec Olivier Moulirac des Napoléons, réseau social dédié aux acteurs de l'innovation. Vous enseignez à Sciences Po, vous me corrigez si je dis une bêtise, et vous tenez votre 10e sommet des Napoléons, c'est à Arles, du 17 au 20 juillet, et France Info est partenaire. Invité également Virginie Resson, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, parlez bien dans le micro. Vous êtes prospectiviste, je l'ai bien dit, vous présidez le LEPAC, le laboratoire d'études prospectives et d'analyse cartographique. Vous interviendrez au Napoléon sur le thème de la transmission. À mes côtés, mes deux partenaires du lundi. Bonsoir François Dorcival.
Bonsoir Jean-François.
Éditorialiste politique à Valeurs Actuelles. Et bonsoir à vous Stéphane Vernet.
Bonsoir Jean-François.
Directeur de la rédaction parisienne de Ouest-France. Nous sommes ensemble à la radio, à la télé, jusqu'à 21h sur le canal 27 de la TNT. Il les a vus. Tous les deux, Emmanuel Macron à Lyon, le chef de l'État, était l'invité exceptionnel de France Info hier, en levée de rideau de la finale du Mondial féminin de football. À petit déjeuner ce matin avec le président de la métropole, David Kemmelfeld, après avoir dîné hier soir avec le maire et ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Kemmelfeld versus Collomb, un fauteuil pour deux marcheurs rivaux aux municipales lyonnaises.
Non, mais il ne s'agit pas de d'éliminer un terrain, nous ne sommes pas en guerre, il y a bien sûr des échéances qui sont devant nous et je l'ai dit hier soir, le président de la République vient nous écouter, vient regarder ce qui se passe sur le territoire, mais pas simplement d'ailleurs en matière électorale, mais parce que c'est une métropole importante.
Écoutez, hier soir, non, je pense que les choses se sont passées de manière très bonne et je pense que on va continuer dans cette voie.
C'est-à-dire que vous vous soumettrez au rôle un petit peu d'arbitre du président de la République?
Ça veut dire que le président de la République se prononcera et que forcément cela rentrera dans la donne qui sera celle des prochaines municipales.
François Dorcival, le président se prononcera, vient de dire Gérard Collomb. Ah, c'est donc Emmanuel Macron qui décide.
Ah ça, Gérard Collomb ne s'est jamais trompé là-dessus. Il a toujours dit que, à la fin des fins, c'était évidemment le président de la République qui se prononçait. Il se prononcera pour Lyon, pour l'agglomération de Lyon, comme pour Paris.
Il n'y a pas une CNI, vous savez, une commission nationale d'investiture?
D'investiture, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, évidemment. Mais il n'empêche que c'est le parti du président. Et pourquoi il se prononcera? Parce que il ne faut pas oublier que cette élection municipale, ces élections municipales, sont également capitales pour les trois ans qui viennent. Oui. Au fond, chaque élection compte. Il avait dit que les élections européennes seraient décisives, elles l'ont été. Les municipales le seront aussi. Pourquoi ? Parce que des municipales dépendent l'implantation de son parti dans le pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, sauf avec l'organisation qui est la sienne, mais légère. Et d'autre part, pour les sénatoriales, imaginez que les sénatoriales soient différentes de ce qu'elles ont été
les grands électeurs. Oui,
sont de grands électeurs. Tous ces grands électeurs sont élus en gros au municipal, maire, adjoint, élu, etc. Donc, il y a un enjeu très sérieux au municipal et il est le premier à s'en préoccuper puisque les autres formations politiques attendent la rentrée.
Il fait Monder Abdenader, le président fait le job, il s'implique, il est sur le terrain, il fait campagne, il mène campagne. Après tout, vous savez, il passe aussi derrière son épouse qui fait souvent les premiers pas.
À Marseille.
À Marseille.
Vous faites réagir sur un sujet à Lyon. Oui, c'est un peu l'objectif quand on est leader d'un parti qui est somme toute naissant. On s'engage ou on s'engage pas, et le président reste engagé,
ce qui est tout à fait naturel.
Ouais, tout à fait. Alors, juste, moi, je voulais dire ce qui m'interpelle le plus dans cette campagne, parce que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Je sais à Virginie et à nous aussi au Napoléon.
Au Napoléon.
C'est évidemment tous les efforts qui sont faits pour l'égalité homme-femme et pour l'appel aux candidatures et pour la promotion des candidatures féminines. Et je trouve que là, le job est vraiment bien fait. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais il y a un vent de joyeux qui va permettre, j'espère, à ces municipales de faire éclore des candidatures féminines en force.
Vous êtes d'accord avec cela, Virginie Resson? Le monde politique a changé aujourd'hui. Les femmes arrivent à irriguer la vie politique de ce pays, ou il y a encore des efforts à faire?
Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire.
même si y a sérieusement du progrès. On n'a toujours pas eu de chef d'État femme en France, alors que beaucoup de pays ont eu cette expérience. Néanmoins, moi, sur les municipales, ce qui me frappe davantage, c'est un autre sujet qui nous tient et me tient à cœur, c'est les questions environnementales, puisqu'on a d'un côté un gouvernement qui dit qu'il veut s'engager pour le climat, qu'il veut s'engager sur l'environnement, et de l'autre côté, on a 35 municipalités qui vont devoir engager ça sur le terrain, sans moyens, sans accompagnement, et donc je pense que ça pour le coup, c'est un job qui n'est pas tout à fait fait. C'est l'accompagnement sur un sujet qui est tout à fait central, déterminant, et qui est aussi une demande des citoyens.
Stéphane Vernet, quand vous voyez ce duel entre Gérard Collomb et son dauphin, David Kimmelfeld, il y a quelque chose de l'ordre de la tragédie grecque qui se noue à Lyon.
Comme vous y allez, Jean-François.
La tragédie grecque. Non, moi ce que j'observe, c'est dans le son, le visuel que vous avez montré pour les spectateurs, aux auditeurs, c'est qu'il y en a un qui m'a l'air plus souriant que l'autre. Alors c'est peut-être la nature de Gérard Collomb d'être un petit peu chonchon, mais enfin je pense que dans cette histoire c'est quand même lui qui est plutôt en mauvaise posture.
Il joue gros quand même.
Il joue gros. Alors il faut expliquer qu'il y a deux postes à Lyon. Il y a le poste de maire de Lyon et le poste de président de la métropole. Mais en fait ils convoitent tous les deux le même poste, qui est celui de président de la métropole, parce que c'est celui qui a le plus de pouvoir. Bien sûr. Et c'est Gérard Collomb qui a dit que c'était le président qui arbitrait à l'arrivée. Quand Stanislas Guérini dit non, c'est la commission nationale d'investiture qui décide. Moi, je pense quand même que c'est plutôt que les choses sont plutôt en train de se faire en défaveur de Gérard Collomb. C'est pour ça qu'il en appelle à l'arbitrage du président. Et ce que je trouve magique dans cette séquence, c'est quand vous écoutez les uns et les autres s'exprimer à la sortie du dîner, du petit déjeuner, vous avez un président qui dit « on fera le bon choix ». Vous avez David Kimmelfeld qui dit je suis très satisfait, et Gérard Collomb qui dit il m'a pas dissuadé d'y aller pour la métropole.
Oui, Emmanuel Macron a dit je veux qu'ils agissent ensemble. Voilà.
Alors ils vont agir ensemble, mais je trouve c'est un exemple assez formidable des limites du en même temps. Quand vous avez deux candidats pour un seul poste, il faut bien choisir à la fin des fins. Il faudra qu'à un moment quelqu'un tranche. Si c'est pas la CNI, si c'est pas le président, je vois pas qui c'est, mais c'est pas possible d'être en même temps sur tout le temps.
Ça s'appelle un fauteuil pour deux.
Là, il faut choisir.
Allez, 20h10 sur France Info. Rappel de l'info. On poursuit là-dessus. Vous inquiétez pas. Avec vous, Léo Técher.
Et attention aux orages, ce soir dans le sud-ouest, plusieurs centaines de foyers déjà privés d'électricité en Béarn et en Bigorre, des chutes d'arbres également à signaler, quelques inondations. 9 départements sont en vigilance orange ce soir, du Lot-et-Garonne jusqu'à l'Ariège et au Pays Basque. À l'heure des oraux de rattrapage du bac, dernières heures de révision ce soir aussi pour les candidats à la candidature à la mairie de Paris. Benjamin Griveaux, Cédric Villani et Hugues Rançon passeront devant la commission d'investiture de La République en marche demain, oral d'une heure et demie chacun. La mort de Vincent Lambert est désormais inéluctable. Ses parents renoncent à tout autre recours judiciaire après un nouvel arrêt des soins mardi dernier. Ils disent se résigner dans la douleur. Vincent Lambert en état végétatif depuis plus de 10 ans. Emmanuel Macron envoie son conseiller diplomatique en Iran. Il arrivera demain pour rassembler les éléments d'une désescalade sur son programme nucléaire, explique ce soir un communiqué de l'Elysée. C'est tout le contraire qui se passe pour le moment. L'Iran annonce produire désormais de l'uranium enrichi à au moins 4,5%. Et puis du champagne pour Julian Alaphilippe. Le Français remporte la 3e étape du Tour de France à Épernay. Ils sont pardon, par la même occasion du maillot jaune avec 20 secondes d'avance sur Wout van Aert. Demain, étape pour les sprinteurs entre Reims et Nancy.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Le chef de l'État est-il en campagne des municipales? On a un petit peu répondu déjà à la question. Voici ce qu'il déclarait hier à propos du retrait du partenariat du groupe Total des JO 2024.
Qui est des entreprises qui polluent? C'est le cas. Mais enfin, je ne vais pas expliquer à tous les salariés de Total en France qu'ils ont un travail qui n'est pas digne. Total doit s'engager dans une politique de transition énergétique. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut les aider à cela. Et si Total peut mettre de l'argent pour financer, aider à financer des jeux verts, si Total peut mettre de l'argent pour aider à financer la transition, c'est une bonne chose. Mais moi, qu'on me trouve l'argent privé, qu'on écarte. C'est plus facile d'aller l'écarter en donnant des leçons de morale que d'aller en trouver.
Voilà, extrait de l'interview exclusive du président de la République hier sur France Info. Virginie Ressant, qui a raison dans cette affaire? Faut-il qu'un pétrolier comme Total soit impliqué dans le financement privé de ces JO qui se veulent écolos? On va la faire courte.
Je connais pas assez bien ce dossier. Enfin, je sais pas qui décide exactement. Donc, je pourrais répondre si j'étais vraiment informée toute la procédure. C'est ça qui me gêne pour vous répondre. Après, moi, j'ai envie de dire, on juge sur les actes et pas sur les mots. Donc, que Total, si l'entreprise Total est cohérente et effectivement montre qu'elle s'engage de manière visible et transparente sur la transition énergétique, fort bien. Mmh. Je pense que c'est pas parce qu'on s'appelle Total ou on s'appelle pas Total, c'est pas ça qui est important. C'est effectivement la cohérence des actes.
Il y a quand même une symbolique derrière tout de même.
Bien sûr qu'il y a une symbolique. Bien sûr qu'elle est forte. Mais précisément, si s'engager, c'est aussi prendre. Enfin, s'engager auprès des JO, c'est aussi l'occasion de prendre un engagement ferme en toute transparence sur les questions. Alors,
juste un mot pour répondre à votre question, enfin votre interrogation. La maire de Paris, le patron Total, se sont séparés d'un commun accord. C'est ce qu'a expliqué hier soir Serge Rue, le conseiller d'Anne Hidalgo, qui était présent aux informés. Mondher Abdennader, quel regard portez-vous sur cette polémique, hein? Après tout, faut-il qu'un pétrolier s'engage, y compris avec cette image, cette volonté d'avoir une image un peu écologique et vertueuse pour ces JO?
On en parlait tout à l'heure avant l'émission.
En micro, oui.
Micro. Ce qui est important, c'est de comprendre aujourd'hui qu'il y a une véritable urgence. On est tous habités d'une urgence incroyable, parce que si on écoute les chercheurs et les scientifiques, il nous reste 3 à 5 ans pour réagir. Au rythme où vont les choses, il nous faut 360 ans pour changer fondamentalement les choses,
de la lutte
l'environnement.
Contre le dérèglement climatique.
Voilà, exactement, contre le dérèglement climatique. Donc il y a une urgence forte. Donc on ne peut pas exclure quelque opérateur que ce soit de la carte.
Vous voulez dire qu'il faut qu'il soit dans la boucle?
Alors, il faut que ce soit dans la boucle, mais comme le disait Virginie Resson, c'est important qu'il y ait un engagement sincère. Et il ne faut pas douter, il ne faut jamais mettre en cause l'objectif que vous partagez avec vous les personnes. S'ils disent qu'ils veulent changer, il faut les croire. Et sur cette parole, travailler avec eux, on peut être pas d'accord sur la manière de le faire, sur le rythme, sur la procédure, mais il ne faut pas remettre en cause l'envie, la volonté de se transformer. Et on a besoin de tout le monde pour aujourd'hui accélérer cette transformation qui est déterminante pour nos vies.
Ouais, Stéphane Vernet, pour poursuivre ce que dit à l'instant Mondher Abdennader, je vous cite ce qu'a déclaré Yannick Jadot, qui est en visite à Évry-sur-Seine, hein, eurodéputé, Europe Écologie, Les Verts, tête de liste aux Européennes. Il dit « Depuis 2 ans que le président de la République gouverne, il ne cesse de satisfaire les besoins et les demandes de Total. On le voit avec l'usine de la MED, les importations d'huile de palme qui ont démarré et qui participent de la déforestation. » C'est ce que déclare donc ce soir Yannick Jadot. Stéphane Vernet, oui ou non, Total doit-il être présent, le groupe, dans cette boucle de financement des JO, est-ce qu'au fond, le débat ne dépasse pas la symbolique?
Non, je pense que le débat est très symbolique, il dépasse la symbolique. Enfin, je vais vous faire une réponse de Normand, c'est oui et non. C'est-à-dire que on peut pas demander à une entreprise qui est le premier employeur de France de renoncer à l'essentiel de ses activités du jour au lendemain, en 3 ans, parce que je vous rappelle que le cœur de métier de Total, c'est quand même d'exploiter des gisements de pétrole, de gaz naturel. Donc effectivement, le bilan carbone, il est pas formidable, sauf que c'est leur raison d'être. Donc si on dit, il faut tout arrêter, on ferme, etc., qu'est-ce qu'on fait avec tous les gens qui travaillent? Qu'est-ce qu'on fait avec l'économie qui va avec? Voilà. Donc le parti pris d'un certain nombre de politiques, c'est de dire on va quand même privilégier la transition écologique. Total a une partie de son activité qui est dédiée au photovoltaïque. Vous avez des maires qui, à l'automne et qui, au printemps, très récemment, ont relancé un tout petit groupe de maires conduit par Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui ont lancé un appel en disant « ça suffit pas, c'est pas assez, il faut que Total s'engage à faire beaucoup plus ». Moi, je suis d'accord avec mon voisin
Mondher, Mondher, oui,
sur l'idée que, en fait, partir du principe qu'on exclut, si vous excluez votre interlocuteur, il n'y a plus de dialogue possible, il n'y a pas d'entente possible. Peut-être que la raison, ce serait au contraire de garder la présence de Total et de travailler pour les faire avancer, pour qu'il y ait plus d'engagement, pour qu'ils aillent plus loin, parce qu'ils font déjà. Mais on peut peut-être leur demander d'aller plus loin. Et puis une dernière chose, si vous dites à Total, ok, bah Total, vous financez pas les Jeux Olympiques de 2024. Ok, mais qui va les financer? Si à l'arrivée, ce que le privé n'apporte pas à ce type de manifestation, s'il faut le prendre dans les caisses de l'État, donc du public, ben moi je suis pas d'accord. Je trouve que là le calcul est pas forcément bon non plus.
Et puis François Dorcival, sacré tacle présidentiel en direction de la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Alors ça c'est sûr. Ça c'est sûr et ça commence la campagne. D'ailleurs, vous avez abordé ce sujet en ouvrant, si je puis dire, la campagne du président de la République et donc de celui qu'il représentera dans l'affaire de Paris. Ça, c'est vrai. Mais depuis quelques minutes, nous sommes sur une attitude politique à l'égard d'un grand groupe français. Mais est-ce qu'on se rend bien compte de l'image que ce groupe-là, qui a une importance mondiale, va avoir s'il est condamné par les politiques français? Que vont penser non seulement ces états-majors, mais ces salariés? Qu'est-ce que c'est que cette discrimination qui est en train de monter à l'égard de Total? Il va avoir droit lui aussi à son macaron, comme les voitures, diesel, etc. Enfin, là, on marche sur la tête. Et effectivement, l'affaire de Paris va nourrir cet aspect-là.
Virginie Raisson.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous.
Oui, mais enfin, c'est quand même ça qui se passe. Alors que le contraire, c'est exactement ce que vient de dire Stéphane, ça consiste à permettre à Total de s'engager, et évidemment, c'est leur but.
Alors, est-ce que vous avez suivi ce qui se passe dans les rues, en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis, absolument partout, vous avez des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de jeunes qui descendent et qui disent « mais non, ça suffit, le monde d'avant, c'était formidable, etc. » Mais ce monde-là, il n'est pas tenable en termes climatiques.
Total doit disparaître.
Total n'est pas forcément responsable.
C'est absurde.
Je suis pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de dire que la transition énergétique, elle est absolument urgente, elle est vitale. C'est la condition de survie même de notre civilisation, si on veut aller jusqu'au bout. Mais... Et par conséquent, la transparence et l'engagement doivent être au cœur de l'action. Il s'agit pas d'être pro-Total, contre-Total. Il s'agit de tenir des engagements et qu'ils soient cohérents avec les urgences qui sont les nôtres. C'est tout ce qui importe, c'est cette cohérence et cet engagement et la transparence. Parce que cette guerre de communication, in fine, elle nuit à quoi? Elle nuit à la transparence. Et du coup, personne ne peut y voir clair sur ce que fait ou ne fait pas Total.
Les chefs d'entreprise, y compris et d'abord ceux de Total, savent parfaitement ce que vous dites. Ils voient les choses comme tout le monde, comme vous-même, comme moi-même. Et ils réagissent. C'est-à-dire que eux aussi ont des perspectives dans la tête. Ils sont pas idiot, au point de vouloir s'auto-détruire. Et par conséquent, il faut leur faire crédit, en effet, des engagements qu'ils prennent, mais à condition de leur permettre de prendre ces engagements. Là, nous sommes en train de les condamner, de les dénoncer, ce que je ne peux pas faire.
Allez, 20h20 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Léo Téchère.
Toutes les copies du bac ont été rapportées selon le ministère de l'Éducation nationale. Et donc ce soir, toutes les notes sont saisies. Il en manquait près de 40 000 des copies retenues par des professeurs en grève contre la réforme du lycée. Cet après-midi, le ministre Jean-Michel Blanquer leur a promis des sanctions s'ils s'étaient mis en dehors du droit. Le Vatican lève l'immunité de son représentant en France. Le nonce apostolique Luigi Ventura est visé par une enquête à Paris pour agression sexuelle. Un jeune cadre de la mairie de Paris s'était notamment plein d'attouchements lors d'une cérémonie des vœux aux autorités diplomatiques. C'est une grande journée pour les immigrés, selon un Malien invité aujourd'hui à assister à la messe du pape François à Rome. Le pape qui appelle à aider les plus faibles et les plus vulnérables quand l'Italie, elle, refuse tout débarquement de migrants. Le Paris Saint-Germain déplore ce soir l'absence de Neymar à la reprise de l'entraînement. Le PSG était au courant, selon le père du joueur. La star brésilienne semble avoir perdu son statut d'intouchable alors qu'elle souhaiterait quitter le club. Et puis, il n'y a plus de Français au tournoi de tennis de Wimbledon. Hugo Humbert, trop tendre, trop jeune, éliminé en 3-7 par le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Même score pour Benoît Paire, éliminé lui par l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Ce soir, Roger Federer se qualifie pour les quarts de finale.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Le rideau va retomber sur 10 années de polémiques et de souffrances au sein d'une famille et au-delà. La mort de Vincent Lambert est désormais inéluctable, ont déclaré ses parents dans une lettre ouverte. Nous ne pouvons que nous résigner. Viviane et Pierre Lambert ne déposeront plus aucun recours pour maintenir en vie leur fils tétraplégique en état végétatif depuis presque 11 ans déjà. Écoutez le propos de François Lambert, le neveu. Lui, il souhaitait l'arrêt des soins.
Moi, je considère qu'il y a quelque chose à revoir avec cette loi, évidemment, et je continuerai jusqu'à ce que ce qui s'est passé pour Vincent serve à quelque chose et pas à rien comme maintenant, parce que concrètement, là, ce à quoi on nous prépare, c'est de dire que, comme d'habitude, c'était juste un fait divers, qu'il y a eu, il y a plein de faits divers, mais que c'était juste un fait divers, qu'il n'y a pas de problème dans le reste du temps. La preuve, c'est qu'on n'entend pas parler. En réalité, on n'entendra pas parler. Pourquoi? Parce que dès qu'il y aura des proches qui seront défavorables à un arrêt des traitements, le médecin y reculera. Parce que ce sera la seule raison ou la seule façon pour qu'il n'y ait pas d'affaire Vincent Lambert. Et en réalité, c'est ça la vraie jurisprudence de l'affaire Vincent Lambert.
Mander Abdennader, votre ressenti sur cette controverse, cette histoire qui est sur la place publique depuis une décennie désormais, le neveu de Vincent Lambert, lui, parle de jurisprudence qui risque de porter préjudice à cette loi, on parle de la loi Leonetti, bien sûr, sur la fin de vie.
Alors, en tant que citoyen, moi, je vois de la souffrance partout, pour tous les partis. Évidemment, pour le principal intéressé, pour sa famille, pour ses parents, pour sa femme, pour etc. Et je me dis que c'est un grand dommage que ce qu'on a mis en place, qui sont les directives anticipées, n'ait pas été fait. Donc moi, j'encourage tout le monde autour de moi et j'espère que la procédure sera beaucoup plus simplifiée.
On rappelle que c'est sur les réseaux. D'un mot, c'est au fond décidé avant, quoi.
Décidé avant de dire ce qu'on souhaite. Mmh. Si jamais on est dans une configuration médicale qui nous diminue énormément. Et donc je trouve ça bien dommage qu'on en soit arrivé là. Après, il faut pas refaire l'histoire puisque les décisions maintenant sont prises. Mais c'est vrai que c'est un sujet très complexe et on verra ce que le législateur va sortir de cette expérience qui a choqué les Français en général, quel qu'il soit d'ailleurs.
François Dorcy va revoir la loi, sinon les médecins reculeront. Il y a ce risque là aujourd'hui.
Les médecins reculeront. Contrairement à ce que dit le neveu, ça n'est pas un fait divers, c'est tout le contraire d'un fait divers. La vie, la mort, l'intimité, tout ça, ça ne sont pas des faits divers. que dire ? La loi, elle a défini un certain nombre de normes. Bon. Et devra-t-elle définir si ce sont les parents seuls ou l'épouse seule qui peut décider du sort du conjoint ? Ou l'inverse, devra-t-elle faire ça ? Ce qui est affreux dans l'affaire Vincent Lambert, c'est que il y a des centaines et plus d'un millier de personnes qui sont en gros dans le même état.
Dans la même situation.
Donc, heureusement, nous n'entendons pas parler, parce que cela est strictement limité au cadre familial, alors que là, nous sommes entre les avocats, entre les jugements, entre les décisions, entre les médecins, entre cet établissement et les autres, etc. Et que, au moment où nous allons apprendre la mort de Vincent Lambert, ça va constituer quand même un choc. Pourquoi ? Mais parce que nous sommes dans cette tragédie familiale depuis 10 ans et qu'on n'aurait jamais dû entrer là.
Virginie Resson, de façon un peu, on va dire, prospective, si je puis me permettre, les sociétés sont assez démunies sur la fin de vie, mais il y a des solutions qui, ailleurs, fonctionnent peut-être un petit peu mieux que chez nous. Mais c'est très compliqué.
Je trouve ça très compliqué, oui. Puis même si j'entends ce que disait Mondaire tout à l'heure, moi je trouve ça même très compliqué de décider de son vivant, ce qu'on ressentira le moment venu. C'est-à-dire qu'on peut très bien, à un moment donné, se dire « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, je ne veux pas peser sur les miens », et puis on ne sait pas dans quel état on est, on ne sait pas. Parce que c'est que l'état végétatif en réalité, et donc ne pas savoir du tout si on peut changer d'avis. Donc je trouve ça vraiment, vraiment très compliqué. Et effectivement, je pense que c'est pas à l'opinion publique de juger, ça on est vraiment d'accord. Mais c'est une question complexe. Et en termes de prospective, là où effectivement le problème se pose, c'est qu'avec le vieillissement de la population, l'allongement de l'espérance de vie, et on aura de plus en plus de centenaires, on va arriver de plus en plus à des situations où on va être en phase d'acharnement ou quasi-acharnement thérapeutique. Est-ce que il va falloir se poser la question, est-ce qu'on limite le soin, à partir de quel âge, à partir de quel stade de gravité?
C'est épouvantable.
Donc on arrive à une société à un moment où la société va devoir poser ses questions, effectivement.
Oui. Stéphane Dernier, sur ce thème-là, au fond, on a régulièrement commenté cette affaire, ne serait-ce que même dans les pages de Ouest France, c'est un sujet qui est récurrent. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir de nouveau légiférer, ce serait la troisième fois, sur la fin de vie?
Je pense que, compte tenu de ce qu'on a vécu autour de cette affaire, même si le terme est à mon avis impropre, parce qu'on parle d'humanité, je pense que ce serait nécessaire de savoir qui décide et dans quelles circonstances. Est-ce que c'est la société ? Est-ce que ce sont les médecins qui prennent ces décisions-là ? Est-ce que c'est un tiers de confiance, un proche qui est manifestement...
On a l'impression que la loi n'a pas éteint ce débat-là.
On n'est pas sûr du tout que ce qui vient de se passer fasse jurisprudence. Je pense que c'est pas aussi facile que ça. Et à mon avis, les polémiques, elles sont pas du tout éteintes. Ce que je retiens, moi, c'est le terme qui a été utilisé par Mondaire Abdennader et qui me paraît bon, c'est la souffrance de toutes les parties. Et je trouve que la décision, moi, je pense, on en pense ce qu'on veut, mais quand vous avez les parents de Vincent Lambert qui disent que qui ne peuvent que se résigner à la, ouais, à la mort de leur fils, pour des parents se résigner à la mort de leur fils. Je trouve ça terrible. Et quelque part, il fallait que quelqu'un le premier arrête, parce que sinon on pouvait, dans une histoire comme celle-là, continuer à faire le yo-yo et assister à des scènes d'une indécence folle. Je vous rappelle l'avocat et l'histoire de la remontada. Je pense que c'est bien que les choses se terminent, oui, et qu'on puisse construire autre chose.
Allez, 20h28, nous allons marquer une pause, celle de la météo, du retour de l'info, et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite des Informés de France Info.
S'il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volets fermés. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson PureCool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié, en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus, pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson PureCool. Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Attention aux orages sur le sud-ouest, c'est agité ce soir et cette nuit avec des orages parfois violents, de la grêle, du vent, de bonnes pluies. Demain matin, des orages seront encore possibles avec beaucoup de pluie. Entre le littoral méditerranéen et le sud des Alpes, ce sera moins instable. On ne sera pas à l'abri de quelques ondées, voire même un coup de tonnerre. L'après-midi, entre les Pyrénées et les Alpes, des averses, des orages éclateront. Les côtes du Languedoc à la Côte d'Azur et la Corse s'en sortiront mieux avec seulement un risque d'ondées. Partout ailleurs, le soleil sera au rendez-vous. On trouvera un peu plus de nuages sur les Hauts-de-France. Les températures seront en baisse, 8 à 16 degrés au nord le matin, 15 à 19 au sud et jusqu'à 24 sur le sud-est. L'après-midi, vous aurez 21 degrés au Havre, 23 à Cambrai, Toulouse, Biarritz, 25 à Paris et Mulhouse, 29 à La Roche-sur-Yon, Grenoble, Nice, 30 à Bordeaux, à Nîmes et 34 à Ajaccio.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Lauriane Delanoë.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Toutes les copies du baccalauréat ont été rapportées, toutes les notes saisies. Désormais, le ministère de l'Éducation nationale l'assure ce soir, en précisant tout de même que quelques jurys sont encore en délibération pour donner les notes définitives. Les professeurs en grève contre la réforme des lycées ont remis leur dernière copie aujourd'hui au premier jour des oraux de rattrapage. La mort de Vincent Lambert est médicalement irréversible d'après l'avocat de ses parents. Ils se résignent donc et ne déposeront plus de recours pour le maintien en vie de cet homme en état végétatif depuis plus de 10 ans. Son médecin au CHU de Reims a engagé l'arrêt des traitements mardi dernier. Un policier s'est suicidé aujourd'hui dans sa voiture sur le parking du commissariat d'Annecy. Il est le 37e à se suicider depuis le début de l'année en France. Une nouvelle étape dans la bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Laetitia Hallyday fait appel du jugement rendu fin mai. Le tribunal de Nanterre avait retenu la compétence de la justice française pour trancher ce litige entre la veuve et les enfants du chanteur. Elle souhaite que l'affaire soit jugée aux États-Unis. Des coupures d'électricité et des inondations dans le Béarn et en Bigorre. Plusieurs centaines de foyers privés d'électricité ce soir. Et c'est à cause des orages, des trombes d'eau et de grêle tombées cet après-midi. Les Pyrénées-Atlantiques et 8 autres départements du Sud-Ouest sont en vigilance orange ce soir. Un Français en jaune sur le Tour de France. Julien Alaphilippe s'offre la victoire sur la troisième étape du Tour aujourd'hui. 215 km entre Binche en Belgique et Épernay dans la Marne. Le cycliste Berrichon est le premier Français à porter le maillot jaune depuis 5 ans.
Ouais, c'est un truc de malade. Franchement, je suis trop content. Je sais que les prochains jours vont être difficiles. J'ai reconnu les étapes. Ça risque d'être un peu dur pour moi, surtout à la planche des Belles-Filles. Mais voilà, le maillot jaune, c'était un rêve, c'était dans un coin de ma tête. Et j'en rêvais, je l'imaginais. Et aujourd'hui, d'avoir été le chercher avec la manière comme ça, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Ouais, je réalise pas quand même là.
Julien Alaphilippe qui a ce soir 20 secondes d'avance en tête du classement général du Tour de France. Les grands favoris facilement qualifiés chez les hommes, en tout cas pour les quarts de finale de Wimbledon. Aujourd'hui, Roger Federer vient de s'imposer en huitième face à l'Italien Matteo Berrettini. Qualification aussi de Rafael Nadal et Novak Djokovic. Le tenant du titre a battu tout à l'heure le Français Hugo Humbert. Défaite également pour Benoît Paire. Il n'y a donc plus de Français en lice dans ce tournoi londonien. Chez les femmes, la numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, a été éliminée aujourd'hui, mais elle gardera sa première place. L'américaine Serena Williams s'est pour sa part facilement qualifiée avec une victoire face à l'Espagnole Carla Suarez Navarro. Enfin, Simona Halep, 7e au classement mondial du tennis, s'est imposée face à la sensation de ce tournoi, la jeune américaine Cory Goff, qui a tout juste 15 ans. Les footballeurs ivoiriens surprennent le Mali. Ils viennent de l'emporter 1-0 en 8e de finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Ivoire sera face à l'Algérie en quart. Il est 20h33 sur France Info. Les informés avec Jean-François Aquili.
20h21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Avec nos invités, Monder Abdelader, cofondateur avec Olivier Moulirac, des Napoléons, réseau social dédié aux acteurs de l'innovation et enseignant à Sciences Po. Avec vous, Virginie Resson, prospectiviste, je l'ai dit, présidente du LEPAC, le laboratoire d'études prospectives et d'analyse cartographique. Avec François Dorcival, éditorialiste politique à Valeurs Actuelles. Et avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Le baccalauréat, donc toutes les copies ont été rapportées, c'est fini, hein, par les professeurs grévistes. Toutes les notes ont été saisies, c'est ce que dit ce soir le ministère de l'Éducation. Nous sommes au soir, je vous le rappelle, hein, de la première journée de l'oral de rattrapage. Emmanuel Macron est revenu sur le conflit du bac, c'était hier, lors de notre interview sur France Info, interview exclusive, avec ces mots.
On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits. Tout le monde a des droits, mais on a des devoirs.
Stéphane Vernet, sur le mot otage, vous partagez le point de vue ?
Non, pas du tout. Je trouve que c'est très excessif. Je trouve que dans un pays qui a vécu ce qu'il a vécu ces dernières années, c'est tout à fait déplacé. Bon, malheureusement, c'est un terme qu'on utilise très souvent à chaque grève. Non, les cheminots prennent pas les voyageurs en otage. Non, les gilets jaunes prennent pas les automobilistes en otage. Non, les enseignants qui refusent de corriger le copie ne prennent pas les enfants et leurs familles en otage. Alors par contre, après, que le moyen utilisé pour faire valoir un certain nombre de revendications soit déplacé, inadapté, fasse du tort aux enfants, ça on peut en discuter. Mais ce terme-là, je trouve qu'il est vraiment pas bon et je regrette que ce soit le chef de l'État qui l'utilise.
Il vous avait sursauté ce terme, Monder Abdelader ?
Sursauter non, parce que c'est passé un peu la description que vous venez d'en faire. En fait, on l'utilise, les mots n'ont plus de valeur. J'ai d'autres exemples de mots que voilà qu'on utilise à tort et à travers.
Vous dites que l'expression est démonétisée aujourd'hui.
Elle est choquante, elle reste choquante. Je lisais avant l'émission aussi un tweet d'un monsieur qui était otage au Bataclan et qui a survécu et qui est enseignant. Et qui disait combien il était choqué qu'on ait utilisé ce mot, parce que lui, il connaît la différence. Voilà, donc il faut être attentif aux mots qu'on utilise, mais bon, c'est pas Virginie Resson que je vais le dire. Quand on est un académique, c'est un problème qu'on a aujourd'hui à notre époque de pouvoir utiliser le bon mot pour les bonnes choses.
François Dorcival, sur la sémantique présidentielle.
Oui, la sémantique présidentielle. Mais en réalité, le mot avait été déjà utilisé par le ministre de l'Éducation nationale et beaucoup de politiques. Effectivement, c'est un mot assez courant et fréquemment utilisé dans tout conflit. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il est certain que une minorité très radicalisée d'enseignants, une très petite minorité, a réussi quand même à saboter ce baccalauréat 2019 à travers trois types de grèves. La grève de la surveillance d'abord, la grève des corrections ensuite, la grève des jurys enfin. Et s'il en a été ainsi, c'est parce que ce milieu syndiqué est profondément déstabilisé aujourd'hui. Il est profondément déstabilisé parce qu'il n'a plus le soutien de l'opinion publique, pas celui des parents d'élèves, et que, en outre, ceux dont il était d'une certaine manière les auxiliaires, c'est-à-dire les formations politiques de gauche, sont par terre, toutes, et complètement divisées et démunies. De sorte que ce que l'on a vu tout récemment, c'était une manière de se faire entendre à nouveau à travers ces opérations qui étaient indignes du corps enseignant.
Virginie Resson, vous diriez, vous aussi, minorité radicalisée, après tout, il y a un problème chez les enseignants plus vaste, j'imagine, qu'une minorité, cher François Dorcival.
Ah oui, c'est une minorité qui a
vous êtes d'accord avec ça?
En fait, moi, je situerais le problème, je prendrais un pas en arrière en tant que prospectiviste, et je regrette un petit peu qu'on n'ait pas saisi l'occasion avec cette histoire de repenser au bac et à l'intérêt de maintenir un examen extrêmement vertical. On continue de donner des notes individuelles en maths, en physique, en histoire géo, alors qu'on sait très bien que ce qu'on va demander à ces futurs travailleurs ne sera ni vertical ni individuel. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il va falloir travailler de plus en plus en collectif, d'apprendre à travailler ensemble. Les solutions, les labos de recherche, les découvertes sont toujours collectives, collégiales, etc. Et pour tous les métiers, d'ailleurs, c'est la même chose. Oui. Et de la même manière, il est absolument essentiel aujourd'hui de pouvoir intégrer, de raisonner en intelligence, c'est-à-dire en faisant les liens, interléguer, faire les liens. Et donc, lier les maths à la physique, à l'histoire, le géo, aux sciences humaines, les sciences dures. Et c'est à cette condition-là, qu'on pourra arriver à aller vers le monde de demain et de la meilleure manière possible. Et aujourd'hui, on continue de raisonner comme en 1980, sauf qu'on n'est plus en 1980. Le bac est un examen qui date des années, du 20e siècle. On est au 21e siècle. Oui, donc, il y a un très fort décalage.
Vous validez la réforme du bac, si j'entends bien.
Je connais pas assez bien les termes de la réforme du bac.
Moins, enfin,
je
pense que c'est
le contrôle continu, mais au-delà du contrôle continu, même la note individuelle me paraît une absurdité.
Mondaire, Abdelnader.
Alors, je voulais rajouter au propos de Virginie le fait qu'aujourd'hui, pour nous, c'était déterminant de voir ça arriver, parce que d'abord, ça correspond à l'état d'esprit, moi qui enseigne un peu, à l'état d'esprit des étudiants qu'on a en face de nous, qui veulent de la collaboration, qui veulent du partage, et surtout, c'est plus d'égalité des chances, ce bac. Et c'est ça qui est important. Il y a par exemple le grand oral qui va être remis en question, Sciences Po qui renonce à son examen. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour cette égalité des chances qu'on appelle tous de nos voeux.
Vous voulez dire que ça va permettre à des jeunes de sortir de l'ornière, hein, c'est ce que vous nous dites ce soir.
En tout cas, ça donne plus de chances. Exemple précis, vous pouvez aujourd'hui, quand vous avez de l'argent, vous payer pour bachoter ou pour préparer un examen, ce que d'autres ne peuvent pas faire. Donc je trouve qu'avec cette réforme, il y a quelque chose qui peut venir accélérer cette égalité.
Rassurez-vous, François Dorcival, on va rester sur le thème du baccalauréat dans un instant. On va juste marquer une petite pause à 20h40 sur France Info avec le rappel de l'info et vous, Léo Téchère.
Du jaune qui pétille dans les coteaux de Champagne, le Français Julien Alaphilippe s'empare du maillot jaune après sa victoire à Épernay. Quatrième étape du Tour de France prévue demain entre Reims et Nancy. Emmanuel Macron appelle Gérard Collomb et David Kimmelfeld à travailler ensemble. Le président a rencontré les deux marcheurs rivaux des municipales hier et aujourd'hui à Lyon. Il appelle donc au rassemblement mais sans prendre parti. Une seconde enquête ouverte pour une nouvelle affaire de viol aux Eurockéennes de Belfort. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Vendredi soir déjà, une jeune femme avait déposé plainte pour viol. L'agresseur présumé est finalement poursuivi pour agression sexuelle, selon France Bleu Belfort-Montbéliard. L'autorité internationale de l'énergie atomique confirme ce soir que l'Iran enrichit de l'uranium à un niveau qui lui est interdit. Téhéran a annoncé aujourd'hui qu'il produisait désormais de l'uranium enrichi à au moins 4,5% pour ses centrales nucléaires. L'Union européenne l'appelle donc à cesser toutes ses activités contraires à l'accord de Vienne sur son programme nucléaire. Et Emmanuel Macron ce soir envoie son conseiller diplomatique en Iran. Et puis attention aux orages ce soir dans le sud-ouest, des chutes d'arbres, des inondations et des coupures d'électricité dans le Béarn. La vigilance orange concerne 9 départements du Lot-et-Garonne jusqu'à l'Ariège et au Pays Basque.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous étions sur le bac, toutes les copies rapportées par les enseignants grévistes, toutes les notes saisies. Mais le problème ne reste-t-il pas entier pour les enseignants en colère? Écoutez ce que disait cette correctrice gréviste qui rendait son paquet de copies ce matin.
On est du côté de la responsabilité face à un ministre qui est totalement en dehors des clous, que nous, en fait, on a vraiment comme volonté de respecter nos élèves et d'assurer que le bac se passe dans les meilleures conditions. Bon, plutôt qu'à d'ajourner les résultats des examens, Jean-Michel Blanquer a préféré en fait passer en force et ne pas décaler, alors qu'il l'avait fait avec le brevet pour la canicule. Ça montre un peu l'état d'esprit de ce ministre.
Stéphane Vernier, ce conflit, la gestion de ce conflit également, cela va laisser des traces.
Bah, je trouve que les propos de cette enseignante montrent aussi l'état d'esprit des grévistes. C'est-à-dire que leur objectif, c'était clairement d'ajourner les résultats du bac. Donc je trouve ça assez curieux. On parle quand même d'une réforme qui ne s'appliquera qu'à partir de la classe d'âge suivante, qui a été négociée depuis plus d'un an et demi. Donc qui a fait l'objet quand même d'un certain nombre d'un consensus très large. Et je serais tenté de revenir sur les propos de François tout à l'heure qui disait François Dorcival qui disait que en fait c'était aussi le signe que les syndicats étaient dans un état de faiblesse et que voilà. Mais moi je pense que derrière ce type d'action, j'aurais une réflexion un peu plus générale si vous voulez bien. Je pense que c'est toute la société qui a un vrai problème aujourd'hui où on a toutes sortes de gens en fait qui ne savent plus comment faire valoir leurs revendications et qui ne savent plus quand s'arrêter et qui, y compris quand ils sont en minorité, pensent qu'ils peuvent passer quand même et en ayant recours à des moyens qui sont hors catalogue. Et ça, c'est vrai pour tout. Les enseignants, les correcteurs, les gilets jaunes, tout ce que vous voulez. Et en fait, on rentre dans
on sort des clous, des revendications, des modes d'action classiques.
Du coup, si vous voulez, les rapports sociaux deviennent particulièrement compliqués à gérer avec des choses un peu particulières. Donc, moi, le terme de preneur d'otage, je n'en veux pas, je reviens. Oui. Mais sur la méthode, je trouve que là, il y a quand même un problème et que d'une manière générale, on ne peut pas considérer que la fin justifie les moyens. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et qu'à un moment, on doit pouvoir aussi dire ou mettre le haut là un certain nombre d'actions publiques concertées qui font délibérément du tort à autrui. Cette ligne-là, elle devrait pas être franchie. Et il y a un problème, je trouve que derrière, il y a un vrai problème de société et de responsabilité collective.
Virginie Resson.
Oui, je suis absolument d'accord sur le constat de désarroi. Désarroi qui est partagé par tous. Hein. Il n'est pas d'un côté ou de l'autre. Il est vraiment partagé et qui renvoie à un changement global. On est en train de passer d'une société à une autre, d'une ère à une autre. Et il faut absolument l'intégrer. Et le problème, c'est qu'au même moment, on a eu une personnification très forte du pouvoir, une disparition des corps intermédiaires qui va exactement à l'encontre de ce besoin justement de dialogue. Donc au moment où les gens ont besoin de repères, ont besoin de dialogue, ont besoin d'échanger parce qu'ils sentent bien que le monde change, que leur niveau de vie, leur mode de vie va évoluer, etc., c'est au même moment où on personnalise et surtout on sabote les corps intermédiaires. Et il me semble que là, on a le résultat, effectivement, dans des manifestations qui vont peut-être trop loin ou qui sont un peu à côté ou qui sont mal comprises, mais c'est jamais que le résultat de ce que j'ai expliqué.
Encore un dernier mot là-dessus, Mander Abdelder, avec vous.
Aujourd'hui, notre société souffre d'une médiation qui ne se fait plus. Oui. Et dans tous les secteurs, que ce soit en entreprise, dans la société civile, dans l'éducation, la médiation est le maître mot et cette médiation doit être organisée. Et c'est un peu ce qu'on constate tous aujourd'hui.
Allez, 20h45 sur France Info. Je voulais que nous revenions sur ce sujet que nous avons largement abordé, hein, celui des violences conjugales. 74 femmes tuées par leur conjoint depuis le début de l'année. Marlène Schiappa annonce pour le 3 septembre un Grenelle des violences conjugales. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, invitée de France Inter ce matin.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a rajouté du budget. Par exemple, on a rajouté des subventions au 39-19, au planning familial, à beaucoup d'associations, au collectif féministe contre le viol cette année. Et au cours du Grenelle, on va construire ensemble des politiques publiques efficaces et nouvelles. Et s'il faut mettre du budget en face, évidemment, il y aura du budget en face.
François Dorcival, mobilisation générale hein, autour de ces questions de société, des questions graves. La société ne bouge pas assez à ce sujet?
Écoutez, la société n'a cessé de changer. Les violences conjugales, il y a 40 ans, ça appartenait à ce qu'on appelait le crime passionnel. Et le crime passionnel, quand vous alliez aux assises, celui qui était le principal suspect avait droit à l'indulgence du jury, parce que c'était un crime passionnel. Depuis 1994, ceci est devenu un crime tout court. Eh bien, et cela n'a cessé de s'aggraver du côté des peines. Donc, la première des responsabilités de l'État, c'est que la justice, à travers d'abord sa police, etc., parvienne à interpeller les fautifs et à les condamner gravement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, quand vous allez à un procès, il faut apporter des preuves.
Oui.
Et évidemment, le domaine de la preuve n'est pas simple et ne l'a jamais été dans ce domaine, puisque c'est le domaine de l'intimité conjugale. Mmh. Eh bien, effectivement, la parole donnée aux femmes et de plus en plus aux femmes, le fait que l'on cite ces chiffres, etc., tout ça va faire que il y aura ce grand débat comme on aime les grands débats, mais à la fin des fins, il faudra bien que les condamnations soient suffisamment dissuasives pour que
les choses se maîtrisent.
Mais nous sommes dans un domaine qui reste passionnel.
Virginie Resson, une campagne, il y aura une campagne pour dire aux femmes qu'elles ne sont pas seules, c'est ce qu'avait expliqué la secrétaire d'État, l'idée de déclencher, dit-elle, un réflexe citoyen, vous êtes témoin de ces violences, vous en avez même l'information, il faut appeler la police. Nous sommes aujourd'hui dans une société du silence, c'est-à-dire qu'il y a une forme de chape de plomb qui entoure ces affaires toujours, malgré aujourd'hui les réseaux sociaux, malgré la communication autour de ces questions.
Souvent, enfin, moi, je sais pas si on parle de crime passionnel ou de drame social aussi, de drames sociaux, pardon.
Oui, bien sûr, il y a toutes sortes d'adjectifs.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'accompagnement, il y a un enjeu homme-femme, mais il y a tout un enjeu social. Et là, on revient au désarroi d'une société. Enfin, il y a vraiment un manque de repères. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que les sanctions doivent être très fortes parce qu'elles doivent être absolument dissuasives. Maintenant, est-ce que ça suffit?
Non, probablement non, voilà. Parce que c'est dans la nature.
Alors, Monder Abdelnader, gare au Grenelle des bons sentiments, a expliqué Marlène Schiappa.
Elle a raison.
Il faut du concret. Est-ce qu'il y a aussi une dimension technologique dans tout ça? Après tout, il est question de bracelets d'éloignement. Est-ce qu'il y a des solutions concrètes pour éloigner, au fond, les prédateurs? Parce que c'est ça aussi l'histoire.
Avant de les éloigner, il faut prévenir et anticiper. Et aujourd'hui, effectivement, l'innovation et les technologies, même si elles ne sont pas omnipotentes, peuvent aider à cela. Il y a des applications, vous avez dû voir ça dans les médias, il y en a une qui s'appelle Appel, qui permet aux femmes de pouvoir porter un bracelet, de faire une alerte, d'appeler les trois personnes les plus proches qu'elles ont, et puis surtout de se faire secourir, d'être suivies en GPS. Donc la technologie peut nous apporter cela, mais ça n'empêche pas cette importance du lien, de l'écoute, et de retisser, on parlait de médiation, et c'est valable pour toute la société, pour tous les enjeux, pour tous les sujets. Où sont les familles? Où sont les voisins? Où sont les copains, etc. Donc, dans une société qui technologiquement semble créer beaucoup plus de liens, on se parle de moins en moins.
De moins en moins.
Allez, 20h50 sur France Info. Nous marquons une pause, c'est le rappel de l'info avec vous, Léo Técher.
L'eurodéputé d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, tacle Emmanuel Macron, un président qui ne cesse de satisfaire les besoins et les demandes de Total, importation d'huile de palme, traité de libre-échange avec le Canada. Et maintenant cette interview, hier soir en exclusivité sur France Info, Emmanuel Macron regrettait alors que Total ne puisse sponsoriser les Jeux Olympiques de 2024 alors que la mairie de Paris souhaite, elle, des Jeux écologiques. Le ministre de l'Éducation nationale promet des sanctions pour les professeurs grévistes qui n'avaient pas rendu leur copie du baccalauréat. Elles sont toutes revenues ce soir, toutes les notes sont saisies et les jurys finissent de délibérer. Il n'y aura donc plus de notes provisoires. L'ONU, choquée par les conditions de détention des migrants aux États-Unis, des camps surpeuplés, des enfants enfermés et séparés de leur famille. Hier, Donald Trump promettait d'ouvrir ses centres de détention aux journalistes. Laetitia Hallyday veut que ce soit la justice américaine qui tranche à propos de l'héritage de Johnny. Elle fait appel du jugement du tribunal de Nanterre qui avait retenu la compétence de la France. Son contentieux l'oppose aux enfants du chanteur David Hallyday et Laura Smet. Et puis ce n'était plus arrivé depuis 5 ans et Tony Gallopin, un Français, a bien le maillot jaune ce soir sur les épaules. Julian Alaphilippe en tête du classement en général du Tour de France. Après sa victoire en échappée à Épernay, 4e étape demain, elle est promise aux sprinteurs entre Reims et Nancy.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Léo Técher évoquait à l'instant ces camps de migrants surpeuplés aux États-Unis. Je vous propose une réflexion sur la marche de nos sociétés pour refermer ces informés. Avec cette messe du pape François, il était question justement des migrants en la basilique Saint-Pierre de Rome, marquant le 6e anniversaire de sa visite sur l'île de Lampedusa. Extrait.
Ce sont des personnes. Il ne s'agit pas seulement de questions sociales ou migratoires. Ce ne sont pas seulement des migrants, au sens où les migrants sont avant tout des personnes humaines et au sens où ils sont aujourd'hui le symbole de tous les exclus de la société mondialisée.
Virginie Ressort, vous interviendrez la semaine prochaine au Napoléon à Arles. Vous avez tenté d'imaginer dans vos recherches le monde de demain, 2038 notamment. L'Europe va-t-elle construire des murs et pourra-t-elle se passer de l'immigration?
Alors qu'elle soit tentée de le faire, c'est certain, on le voit bien, il n'y a pas besoin d'attendre le futur pour voir qu'on continue de croire qu'en mettant effectivement des murs tout autour de l'Europe, on pourra arrêter les migrants. C'est se voiler la face, évidemment, face à un certain nombre de réalités qui nous attendent. Et la pression migratoire va forcément augmenter. Et j'ai un peu du mal à parler de migrants, parce que j'aimerais bien qu'on revienne au terme de réfugiés climatiques. Parce que à une époque, on parlait des réfugiés politiques, c'était noble. Et puis on est passé au statut de migrant, qui est beaucoup moins noble finalement. Et réfugié climatique, pour moi, c'est redonner un statut à ces gens qui fuient, certes la misère, mais très souvent, effectivement, une misère qui est provoquée par les dégradations de leur environnement, auxquelles nous devons être associés, puisque c'est notre développement aussi qui a conduit à ces situations. Là. Si vous, on en a un peu parlé déjà, mais la crise syrienne, le point de départ de la crise syrienne, c'est quand même une crise climatique qui a précipité les paysans vers les villes syriennes et qui, une situation qui s'est dégradée et qui a donc poussé sur les routes des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes même, de toute origine. Et là, je suis très contente d'avoir entendu le pape faire cette déclaration, de revenir sur la personne. Il faut avoir connu des accidents de la vie pour savoir que cette situation-là, la situation d'être sur une route avec ses enfants, parce qu'on veut le mieux pour ses enfants, personne n'en est protégé ou très peu en sont protégés. Et par conséquent, je trouve que aujourd'hui, c'est la façon dont on discute, même à l'échelle européenne, de la question des migrants, elle est complètement à côté de la plaque de ce point de vue-là. Je suis extrêmement choquée et en même temps rassurée par ce qui s'est passé avec le bateau, enfin le capitaine du bateau de SOS Watch qui a quand même été arrêté par la justice, les forces de police italiennes, et libéré par la justice italienne, alors qu'il ne faisait qu'exercer le droit international. Hein. Donc on voit bien, c'est le monde d'hier et le monde de demain qui sont en affrontement. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de secours.
Ne se comprennent pas forcément, oui.
Non, exactement.
Du moins, le monde d'hier n'arrive pas à imaginer le monde de demain. François Dorcival, le pape François dit, ce ne sont pas seulement des migrants, hein, au sens où les migrants sont avant tout des personnes humaines. C'est un rappel nécessaire.
Mais lui, le pape est dans sa mission pastorale. Il ne peut pas dire autre chose et on n'attend pas autre chose de sa part. Maintenant, la question, c'est de savoir les conséquences que tous ces mouvements ont sur les populations dans lesquelles ils arrivent et qu'ils viennent donc, en quelque sorte, déstabiliser. Et là, le pape doit constater aussi ce qui se passe en Europe en matière de déchristianisation. Il est évident que la solidarité qui s'affiche entre les Européens et les migrants, qu'ils soient climatiques, sociaux ou surtout d'une manière générale due à des chaos qui touchent leur pays, tout cela crée une situation qui est effectivement extrêmement préoccupante pour l'avenir. Et là, s'arrête la pensée du pape qui, pour le moment, n'est seulement dans la morale de l'accueil.
Oui, Stéphane Vernet, le pape s'est arrêté aussi à la situation italienne. Il ne cite pas Matteo Salvini et les choix faits aujourd'hui par les dirigeants de nos voisins italiens.
Oui, par contre, Matteo Salvini cite allègrement le pape François. Alors oui, le pape est dans sa mission pastorale, hein, je reprends les termes de François Dorcival. Il peut pas faire autrement. Si, il pourrait faire autrement. En fait, moi, je trouve qu'il a un certain courage. C'est-à-dire que il est allé à Lampedusa au début de son magistère. 6 ans après, il fait cette messe. Il ne change pas d'avis. Il ne dévie pas. Il considère le migrant, la personne humaine avant toute chose. Il est en raccord avec les évangiles. Et il est bien seul dans un monde où tous les dirigeants sont en train de dresser des frontières, changent de discours.
Il y a des motifs à ça.
Ouais,
il y a
le pape, il change
à
pas.
Chaque chose.
Il ne dévie pas. Chose. Il a sa trajectoire. Ouais. Il change pas. Et je trouve ça plutôt intéressant.
Mais il n'aide pas.
Mandaire Adenader, quel sera le message qui sera délivré à ces Napoléons dont France Info est partenaire?
Ce qu'on tente de faire, c'est toujours la même chose. Je parlais d'urgence tout à l'heure. Ce qui nous préoccupe, comme Virginie Resson le rappelait, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'impact des technologies, de l'innovation, de l'accélération de nos vies doit être anticipé. Ce qu'on cherche à faire, c'est à voir quel est cet impact sur nos valeurs, sur nos usages, sur nos sociétés. Parce que constater ce qui est sans anticiper, c'est déjà quelque chose de déterminant. Déjà, si on peut arriver à anticiper un peu et à gérer l'après, ça va être important. Surtout les sujets qui sont des sujets environnementaux, des sujets d'éducation, des sujets de transmission, qui sera le thème d'Arles. Et puis, avoir Virginie Resson avec nous sur ces sujets-là, pour nous, est déterminant, mais avec beaucoup d'autres personnes qui vont travailler sur ces sujets. Parce que les spiritualités, aujourd'hui, ont une approche très laïque de cette transformation aussi.
Allez, c'est Napoléon, Virginie Resson, c'est la conclusion, c'est du 17 au 20 juillet, très vite.
Alors sur les Napoléons, je suis extrêmement flattée et honorée d'y être. Et juste sur les migrants, je voulais rappeler quand même que l'essentiel des flux de migrants, aujourd'hui, ils sont sud-sud, ils ne sont pas sud-nord. Ça, c'est une première chose dont il faut se souvenir. Et la deuxième chose, c'est que fabriquer un récit commun plutôt qu'opposant les accueillants et les accueillis, ça serait déjà une première étape pour construire la réponse de demain.
C'est le mot de la fin. Très vite, François Dorcival, la une de Valeurs Actuelles.
14 juillet, puisque semaine du 14 juillet, les Hauts-Français.
Ouest-France, avec vous, Stéphane Vernet.
Le Tour de France est un dossier sur la pénurie de médicaments et je tiens à préciser que ça n'a rien à voir.
Allez, c'est excellent. Merci à tous les quatre et bonne soirée. On se retrouve demain soir pour une prochaine édition des Informés de France Info. Merci.